Comme annoncé, je vous propose ce matin de continuer notre réflexion sur le thème de l'homosexualité. Je remercie les gens qui ont fait des retours par rapport à la semaine dernière, essentiellement positifs, mais pas que. Aussi, pour commencer, je voulais demander pardon si des éléments de ce que j'ai dit ou de la façon dont je l'ai dit ont pu choquer ou blesser. Ce n'était évidemment pas mon but, et ça je suis sûr que vous le savez. En me choisissant comme pasteur, les membres de cette église ont dit « Nous te faisons confiance pour nous guider, en particulier dans les considérations spirituelles et théologiques. La responsabilité est grande et je ne veux en aucun cas utiliser un quelconque ascendant que je pourrais avoir, d'avoir le privilège d'être derrière cette chaire pour imposer des vues qui seraient les miennes. » Mais merci de votre confiance, et je compte effectivement aussi sur vous pour m'avertir s'il y a des choses où vous trouvez que je m'égare, et on est là pour librement en discuter, aussi fraternellement en discuter. Soro, je peux commencer pour les faire entre sœurs. Hein. Mon objectif sur ce sujet de l'homosexualité, évidemment pas de stigmatiser qui que ce soit, mais bel et bien essayer d'éclaircir une zone peut-être un peu floue pour nous et savoir comment nous positionner en particulier par rapport à ce que nous dit la société sur ce sujet. J'ai essayé de chercher objectivement, sans a priori, même si on a toujours un peu des lunettes particulières quand on lit la Bible, essayer de voir ce que les textes disaient, de réfléchir à leur contexte, savoir s'il y avait des exceptions, etc., etc. On a bien sûr le droit de penser différemment, mais je le rappelle, je crois ce que Dieu nous dit dans la Bible, c'est que l'homosexualité est un péché. Que la Bible classe cela dans la catégorie des pratiques, et non pas de ce qui concerne l'être de la personne. Et on avait vu aussi qu'il n'y avait pas de cause génétique prépondérante dans l'homosexualité, comme l'a démontré une étude scientifique internationale de grande ampleur récemment. Cela provient plutôt d'un problème d'identité. L'image de Dieu, qu'est l'être humain, créé par Dieu, est sérieusement écornée, altérée, déformée, floue, depuis la chute, à cause du péché. Ce sont les trois points que nous avons vus la semaine dernière. Ce constat, je pense, il faut le connaître. Mais faut-il le dire? Et comment faut-il le dire? En pratique, que faire et comment faire? Et ce sont les questions que je vous propose aujourd'hui. Oups, on va arriver. Un rappel avant toute chose, quelque chose de primordial, d'essentiel que nous devons toujours avoir en tête lorsque nous considérons les autres dans l'Église ou hors de l'Église. Vous le savez, mais j'insiste là-dessus. Là, c'est dans la traduction œcuménique de la Bible. Éphésiens chapitre 2, versets 7 et 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, vous n'y êtes pour rien. C'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des œuvres, afin que nul ne tire orgueil. Peut-être que parfois nous nous croyons, consciemment ou inconsciemment, un peu plus justes que les autres, un peu plus justes que les homosexuels surtout. Peut-être regardons-nous les pécheurs avec un peu de hauteur, nous qui sommes maintenant justes. Effectivement, nous sommes justes aux yeux de Dieu, mais nous n'oublions jamais d'où nous venons. N'oublions jamais que ce que nous sommes aujourd'hui, nous n'y sommes pour rien. Nous sommes, nous tous, des condamnés à mort qui avons été graciés. Des condamnés à mort qui avons été graciés, nous tous, si nous avons mis notre foi en Christ, bien sûr. Oui, je n'oublie pas le pardon extraordinaire et immérité que j'ai moi-même obtenu pour mon péché, mon grave péché. Grave péché, c'est d'ailleurs un pléonasme, on l'a rappelé aussi la semaine dernière. Il n'y a pas d'autre péché que ça. Tous les péchés sont graves. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton pardon immérité. Cela n'appelle pas à la dépréciation de soi ou à la lamentation perpétuelle, mais je pense empêche le jugement de l'autre. Ne soyons en effet jamais dans le jugement, comme nous le rappelle ce verset de Romains aussi. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Frère ou pas frère d'ailleurs. Et c'est donc bien avec humilité, humilité et humilité que nous aborderons toute autre personne, et les personnes pratiquant l'homosexualité en particulier. Comment les aborder d'ailleurs ? Et je distinguerai deux cas de figure, non convertis ou convertis. Comment faut-il faire ou dire pour aborder des non-croyants qui seraient homosexuels ? Je pense que la réponse est simple, rien. Rien. En tout cas, rien de spécial ou rien de particulier que nous ne ferions pas avec quelqu'un d'autre. Et à y réfléchir, nous pourrions utiliser plein de mots, mais ma liste n'en comportera que deux. Amour et prière, ou plutôt prière et amour. Et on en a déjà eu quelques exemples ce matin dans la présidence. Rien de particulier, rien de spécial à leur égard, sinon peut-être plus de prière que d'habitude, pour demander, peut-être pas prioritairement, que Dieu change le cœur de l'autre, mais pour qu'il change mon cœur d'abord, pour que Dieu me change moi, en me donnant plus d'amour pour cette personne homosexuelle qui me met peut-être mal à l'aise. Prier pour que Dieu bénisse, donne sagesse. Désolé, hein, si vous attendiez quelques recettes miracles ce matin, vous risquez d'être un peu déçu. Mais je crois que Jésus n'en a pas vraiment donné non plus. Il a dit, ça a été aussi rappelé, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », disait-il simplement. C'est tout. Bon, pour être exact, c'est un miracle. Parce que sans l'intervention miraculeuse de Dieu, l'intervention transformatrice de Dieu dans nos vies, dans nos têtes, dans nos cœurs, nous ne pourrions jamais aimer notre prochain. N'importe lequel, pour que justement il ne reste pas n'importe qui à nos yeux, mais pour qu'il devienne aussi important que nous-mêmes. Ok, mais concrètement, je pense que c'est déjà concret si on veut bien essayer. Si jamais il reste des places à la réunion de prière. J'aime bien le témoignage d'un pasteur qui est pas mal en contact avec des gens de la communauté homosexuelle dans le cadre de son ministère, et je le cite en réorganisant un peu ses propos, qui sont dans le cadre d'un interview qu'il a donné, et qu'on trouve sur le site tajeunesse.org, un site que j'ai trouvé pas mal, en lien avec la Maison de la Bible. Je n'ai pas lu tout ce qu'ils disent, mais en tout cas sur ce sujet-là, je le recommande. Et il dit « Je ne sais pas si je pourrais être condamné pour avoir parlé de l'homosexualité. » Certains de mes amis chrétiens trouvent que mon discours sur la question est trop ouvert. Et certains de mes amis homosexuels trouvent que mon discours est trop fermé. Ce que tu trouveras dans mes interventions et mes écrits, c'est que j'ai beaucoup d'amis homosexuels et que je n'approuve pas leur choix de vie. Au-delà de ça, je tâche de toujours traiter une personne comme Jésus l'aurait traitée, quelle que soit sa sexualité. En fait, si on suit ce que dit la Bible de l'homosexualité, on est effectivement souvent accusé de ne pas être tolérant. Ne faudrait-il pas plutôt montrer de l'ouverture et de l'amour, comme nous le dit la Bible ? Nous n'avons pas à choisir entre la tolérance et l'intolérance. Le problème n'est pas une question de tolérance, mais une question bel et bien d'amour. Dans la société en général, nous ne savons pas dire « je t'aime, mais je ne suis pas d'accord avec toi ». Il nous faut réapprendre à aimer sans approuver. Pour certains, cette attitude est de la tolérance. Pour d'autres, c'est de l'intolérance. Peu importe, c'est toujours comme ça que Jésus rencontrait les gens et nous devons l'imiter. J'aime dire que lorsque mes amis homosexuels ont découvert que je n'approuvais pas leur comportement sexuel, c'était trop tard pour m'accuser d'homophobie, parce que nous avions déjà pris un verre ensemble, nous avions déjà mangé ensemble, ou collaboré ensemble sur un projet, ou enterré quelqu'un que nous aimions tous les deux. Nous disons qu'il faut aimer le pécheur tout en détestant le péché. C'est vrai, c'est important, mais c'est facile à dire, plus difficile à mettre en pratique. Malheureusement, l'attitude des chrétiens envers les homosexuels ressemble trop souvent à de la haine, même s'ils affirment qu'il s'agit de dire la vérité avec amour. Ce n'est pas de l'amour d'excuser un comportement que Dieu appelle le péché, mais ce n'est pas non plus de l'amour si la parole de condamnation est dite, mais que la relation ne va pas plus loin. L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Des paroles du prophète Ésaïe que Jésus a repris pour lui-même. Si vous étiez là, vous vous souvenez qu'on les a abordées en début d'année. Et nous avions souligné que les captifs de ce passage n'étaient pas nécessairement ceux qui sont dans les prisons, mais plutôt celles et ceux qui sont prisonniers du péché. Nous, les homosexuels, tout être humain, Jésus vient libérer. Et nous devons imiter Jésus. Nous ne sommes pas le libérateur. Nous véhiculons simplement le message de libération. Imiter Jésus, mais comment il a fait, lui ? Il accueille les gens de mauvaise vie et il mange avec eux. C'est un reproche qui lui était souvent fait par ceux qui se croyaient justes. Et nous pouvons considérer l'exemple de Jésus avec la femme samaritaine, par exemple, en Jean 4. Lui a-t-il d'emblée reproché sa situation conjugale compliquée, pécheresse ? Pas du tout. C'est arrivé en cours de conversation et aucunement sur un ton de jugement ou de reproche. Ou encore l'exemple de la femme pécheresse de Luc 7, que l'on comprend généralement comme étant une prostituée qui vient verser du parfum sur les pieds de Jésus. Jésus ne lui dit même pas qu'elle vit dans une situation de péché. Péché, c'est grave en plus. Non, c'est le Saint-Esprit qui lui a déjà parlé à cette femme. En tout cas, faute de mention particulière dans le texte, c'est ce que je conclus moi. Le Saint-Esprit lui a déjà parlé et l'a déjà convaincue de péché. Et elle vient à Jésus en pleurant. Et les seules paroles que Jésus lui adresse alors, qui nous sont rapportées dans ce passage, sont de lui dire « Tes péchés sont pardonnés ». Je pense que ça doit nous faire réfléchir, cette façon d'agir de Jésus vis-à-vis des gens, et en particulier ceux qui sont dans des situations empêtrées dans le péché. Si nous connaissons ou rencontrons des personnes homosexuelles, ne les évitons pas. Nouons des liens avec elles. Ce ne sera ni nous compromettre, ni altérer la bonne nouvelle. Que nos vies, plutôt que nos paroles peut-être, doivent exprimer. Exprimons l'accueil et l'amour du Seigneur. Peut-être que ce sont ces personnes qui nous éviteront de prime abord. Pas grave. Cela ne nous empêche pas de prier pour elles. Peut-être même seront-elles vindicatives, revendicatrices, ultra-militantes. Et c'est vrai qu'il y a une frange homosexuelle comme cela aussi. En réaction, même si c'est un mécanisme de défense humain assez fréquent, naturel, de notre côté, ne nous radicalisons pas, ni dans nos propos, ni dans notre attitude. L'apôtre Paul écrivait aussi « Que votre douceur soit connue de tous ». Souvent, on comprend ça comme étant de la mollesse. C'est pas la même chose. Soyons vrais dans nos attitudes et faisons preuve de sagesse et de discernement dans nos propos. ne nous empressons pas d'asséner une condamnation de leur homosexualité, même si c'est une vérité biblique. Si la question vient dans les échanges, soyons vrais aussi, mais avec, comme toujours, amour, paix, bienveillance, bonté, douceur, maîtrise de soi. On dit toujours les mêmes choses, hein, mais je pense que le jour où on sera parfait dans leur mise en pratique, on n'aura plus besoin de les dire. Vous n'êtes pas prêts d'arrêter de m'entendre, à dire toujours les mêmes choses. Homosexualité ou pas, le problème principal des gens, de ces personnes, est de ne pas connaître Dieu. Peut-être on pourrait dire « Ouais, t'es pas assez combatif quand même !» N'oublions jamais, en tout cas, que le combat n'est pas contre les personnes. Aussi égarés puissent-elles être, volontairement dans le péché, ou involontairement. En tout cas, le combat est spirituel. Nous ne sommes pas en croisade et nous ne sommes pas des justiciers. Même si nous avons raison sur le fond, même si nous sommes dans la vérité, je le crois, montrons-leur que Dieu les aime, telles qu'elles sont. Et le Saint-Esprit fera son œuvre, peut-être en nous utilisant, comme porte-parole, peut-être pas, pour leur montrer qu'elles ne doivent pas rester telles qu'elles sont. Oui, écoutons le Saint-Esprit, laissons-nous guider par lui. C'est lui seul, vous connaissez ce verset aussi, qui convaincra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. Pourtant, des fois, en tant que chrétien, on aime bien que ce soit nous qui le faisions. Hein. Mais non, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Nous, on peut s'enlever cette pression déjà de nos épaules. Chacun son rôle. Je l'avais déjà partagé, mais un jour, un homme me téléphone et me demande si je peux le recevoir pour discuter. Ok, évidemment, oui. D'emblée, il m'explique qu'il est homosexuel, en couple avec quelqu'un, qu'il aimerait bien venir à l'église parce qu'il se questionne sur Dieu, il sent qu'il a besoin de Dieu, mais son compagnon y est hostile. Alors il me demande si notre église accueille les couples homosexuels, parce qu'il aimerait plutôt venir dans une église évangélique. Un homme qui connaissait déjà pas mal de choses apparemment, il était face à un dilemme majeur. Répondre à Dieu, qui de toute évidence l'appelait et avec qui il sentait confusément que ses questions existentielles trouveraient des réponses, mais peut-être au prix d'une brouille ou d'un abandon de son compagnon. Ou répondre à son compagnon, qui lui répondait à certains besoins affectifs et relationnels, mais au prix d'un mal-être persistant chez lui. Il m'a ému de compassion, comme disent certains versets, j'avais de la peine pour lui. Je crois que d'une certaine façon, il est venu me voir parce qu'il espérait que je résoudrais son problème en lui disant qu'il n'y avait pas de problème, que l'homosexualité était approuvée par Dieu, alors que ça, lui-même savait que non. Mais ça aurait été un mensonge que je n'ai pas pu lui dire. Par contre, je lui ai assuré que nous l'aurions bien évidemment accueilli dans l'Église, nous tous, avec amour, j'espère. Nous avons longuement discuté, prié ensemble, pleuré aussi, parce que ce sont des situations émotionnelles fortes, des situations de détresse profonde. Je ne l'ai plus jamais revu. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais je suis triste que cet homme, pour cet homme, auquel je repense régulièrement, et je prie sincèrement qu'il réponde à l'appel de Dieu. Dieu est patient, mais il nous place aussi souvent devant des choix qui nous semblent difficiles. Et cet exemple nous fait arriver au deuxième cas de figure, ceux des convertis, ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, le Sauveur, leur Sauveur, désormais. Peut-on être homosexuel et chrétien ? Ouais, bien sûr que non. Et la réponse que nous aurons peut-être rapidement à l'esprit. Mais si je pose la question plus large, peut-on être encore pécheur et chrétien ? Là aussi, nous devrions répondre non. Mais cependant, nous reconnaîtrons que c'est pourtant le cas de chacun et de chacune d'entre nous. déjà chrétien, encore pécheur. Un petit peu, mais un peu quand même. Ainsi, je pense qu'effectivement, on peut être homosexuel et devenir chrétien. On peut placer sa foi en Christ, le Sauveur, demander pardon pour ses péchés et l'obtenir, ce pardon, être sauvé, mais sans que tout soit encore réglé dans sa vie. Dans l'exemple de cet homme que je viens de parler, le choix devant lequel Dieu le plaçait semblait être avant sa conversion. Mais je pense que Dieu ne fait pas nécessairement toujours de la même façon. Il utilise un timing différent, adapté à chacun. La première étape de toute vie chrétienne, c'est bien sûr la conversion. C'est là où il y a justification, grâce au sacrifice de Christ que Dieu a agréé pour nous. Là, une fois pour toutes, Dieu nous adopte comme son fils ou comme sa fille. Que faut-il faire pour cela ? Rien, juste placer sa foi en Christ, se placer au bénéfice de son sacrifice à la croix. C'est possible pour tous les pécheurs, homosexuels aussi. Mais ensuite, il y a la sanctification. Il doit y avoir la sanctification. Pouvons-nous nous satisfaire d'être pardonnés et de continuer à être pécheurs ? Dieu s'en satisfait-il ? Évidemment non, nous le savons, et c'est ça le travail du Saint-Esprit en nous. Quand nous péchons, nous ne sommes pas satisfaits, nous ne sommes pas heureux. Nous sommes même peut-être honteux de ce que nous avons fait, et nous voudrions que Dieu nous change, nous libère. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, Dieu nous aime tel que nous sommes, mais il ne veut pas que nous restions tels que nous sommes. C'est cet enseignement qu'on avait partagé aux enfants au week-end dernier, si vous vous souvenez. Et tout le Nouveau Testament nous invite à grandir dans notre vie chrétienne, nous invite à progresser dans notre marche avec Christ, à vouloir et à nous laisser transformer à la ressemblance de Christ. Comme le péché touche toutes les facettes de notre vie, la sanctification doit aussi toucher toutes les facettes de notre existence. Et il n'y a pas un recoin de nos vies où on puisse dire « Non, non, c'est bon, non merci, dans ce cas-là, la sanctification n'est pas nécessaire. » Pas un seul recoin. Et pourtant, des fois, notre volonté de transformation n'est pas totalement alignée avec celle de Dieu. Jésus Seigneur, ouais, globalement, mais totalement, exclusivement, notre envie de le vivre est parfois fluctuante. Et même si notre volonté est entière pour Dieu, ça va prendre du temps. Tout le reste de notre vie, en fait. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas faire de miracles, mais c'est souvent comme ça, une reconstruction, petit à petit, patiemment. Et une personne homosexuelle qui se convertit voudra aussi changer, plaire à son Seigneur, laisser l'Esprit le transformer, demander son aide. Soit elle est déjà consciente que l'homosexualité est un péché et cela fera partie de ce qu'elle voudra changer, soit elle n'en est même pas encore consciente. L'Esprit lui révélera. Peut-être par notre intermédiaire. Alors avec amour et par amour, nous lui dirons. Quand je dis « nous lui dirons », je pense peut-être plus spécifiquement aux pasteurs ou aux anciens. Pas la peine que chacun y aille de sa petite phrase en disant « Eh, au fait, t'es au courant que c'est un péché ?» Je pense que sur ce genre de sujet délicat, complexe, il faudra faire confiance effectivement aux responsables de l'Église, même s'ils ne vous informent pas toujours de ce qui est dit, de ce qu'ils font, ou ne vous détaillent pas régulièrement les avancées. Et si vous trouvez que les choses ne vont pas assez vite, pas de murmures, pas de gogusmos, comme on l'a vu pour celles et ceux qui étaient au week-end d'église. Merci de votre confiance là aussi, et de votre amour. Je le répète encore, Dieu peut effectivement faire des miracles et transformer radicalement, instantanément. Alléluia. Mais dans ce genre de problématiques lourdes, identitaires, il faut souvent du temps pour se reconstruire petit à petit sur le chemin de sanctification. Et avec probablement de la relation d'aide. Avoir envie de changer est une chose, mais être totalement libéré de toute tendance homosexuelle et vivre en réelle nouveauté de vie, c'est sûrement une autre affaire. Si vous avez eu ou avez encore vous-même des addictions personnelles, ou moi-même, vous comprendrez évidemment. Cela dépend aussi évidemment de l'aide qu'il obtient de ses frères et de ses sœurs dans la foi, et nous sommes chacun et chacune impliqués dans la croissance et dans l'édification de l'autre, à commencer dans la prière. Suis-je une aide ou suis-je un obstacle pour les autres ? Suis-je un juge ou un soutien ? Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Usez plutôt de votre jugement pour ne pas mettre devant votre frère une pierre d'achoppement ou une cause de chute. Avons-nous l'amour nécessaire ? Je voudrais encore souligner un point concernant cette sanctification et ce soutien fraternel qui est attendu de tous. Ouais, mais comment on fait par rapport à un frère ou une sœur qui clairement ne fait pas ce qu'il faut pour grandir ? Ou pire, qui semble vouloir régresser, revenir en arrière ? Et malheureusement, ça arrive. Et dans ces cas, je vous propose de relire un des textes qu'on a lus la semaine dernière, qu'on a pris comme une condamnation de l'homosexualité, mais on va le relire dans son contexte, dans l'Épître aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers, les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. On avait juste pris ce verset la dernière fois, mais je lis les deux suivants. Voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et cette déclarée juste, c'est la justification lors de la conversion. Ce n'est pas parce qu'ils ont suffisamment changé pour que Dieu trouve qu'ils sont pas mal. Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Il est étonnant ce passage en fait, très étonnant. Nous naturellement, pour aider un frère ou une sœur, le ramener dans le droit chemin, nous serions peut-être rapidement sur le mode « c'est bien, c'est mal, c'est interdit, c'est obligatoire, nous avons raison, vous avez tort, etc. etc. » Nous croyons peut-être encore souvent que c'est la meilleure façon de faire, mais est-ce que Paul s'exprime ainsi ? Pas du tout, il est beaucoup plus pédagogue, je pense. Et pourtant, Paul, ce n'est pas la réputation que moi j'ai de lui. Enfin, comment on dit ? Ce n'est pas ce que je croyais qu'il était, en tout cas. Je croyais qu'il était un peu plus cassant que ça, mais non. Quand on lit bien ce passage, il n'est pas moralisateur ou légaliste, c'est même tout le contraire. Vous avez bien vu le verset 12 ? Il écrit même « Tout m'est permis ». Tout m'est permis, deux fois il écrit. Et même un autre passage au chapitre 10 aussi. Comment ça, tout est permis ? On a dit ce matin, et on en a parlé une demi-heure la dernière fois, comme quoi l'homosexualité, justement, c'était pas permis, que c'était condamné, réprouvé par Dieu. Et aujourd'hui, quand on lit le contexte, on peut lire que tout est permis. Certains commentateurs disent que Paul n'utilise ces mots que de façon ironique, parce que c'est ce que les Corinthiens disaient. Mais Paul l'écrit bel et bien, et je pense qu'il le pense lui aussi. « Tout m'est permis ». Et c'est vrai qu'en Christ, nous sommes libres, effectivement libres, totalement libres. Lui, il le sait ce que c'est d'être légaliste. Il a été extrême en la matière, un extrémiste, allant même jusqu'à emprisonner et à prouver le meurtre de ceux qui s'écartaient de la juste voie qu'il croyait. Et il a commis cela au nom de Dieu, avant que Christ ne se place sur sa route. Alors depuis, Paul ne cesse d'affirmer le caractère libérateur de l'Évangile. Oui, l'Évangile est libérateur parce qu'il est le contraire d'une religion et le contraire d'une morale faite d'obligations et d'interdictions. En Christ, nous sommes libres, effectivement libres, totalement libres. Libres de faire ce qu'on veut, y compris libres de faire n'importe quoi. C'est pas chouette, ça ? Non, c'est pas chouette. Faire mauvais usage de cette liberté sera mauvais pour nous, altérera aussi notre communion fraternelle, perturbera notre relation avec Dieu, et même au final nous rendra esclaves de nos passions, et en particulier dans le domaine sexuel, Voilà ce que Paul souligne aux Corinthiens, et la ville de Corinthe, qui était un port cosmopolite, c'était loin d'être exemplaire en la matière. Tout m'est permis, je suis libre de faire ce que je veux. C'est mon droit, je le revendique. On est en République quand même, non ? C'est marrant, mais cette revendication du droit, qui est si forte de nos jours dans notre société, en particulier en matière de mœurs, c'est de toute évidence quelque chose de très ancien. Il y a 2000 ans déjà, les Corinthiens avaient la même revendication. Le droit de gérer ma vie comme je l'entends. Le droit de me marier avec qui je veux. Le droit d'avoir la sexualité que je veux. Le droit à un enfant si je veux. Et avec un corollaire, parce que j'ai le droit au bonheur. Bonheur qui est associé dans l'esprit de la plupart des gens au fait de pouvoir faire ce qu'ils veulent ou d'obtenir ce qu'ils veulent. Et peut-être que nous le pensons parfois aussi dans l'Église. Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Chacun est esclave de ce qui le domine, dit aussi en substance un autre verset. Les Corinthiens sont sauvés. Ils ont mis leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et s'ils ont été homosexuels, s'ils ont été adultères, débauchés, idolâtres, je ne sais plus tous les mots qui sont utilisés dans le verset, Jésus-Christ les a lavés, les a purifiés du péché, les a déclarés justes par l'Esprit de Dieu. C'est ce que confirme bel et bien le verset 11. Dieu les a sortis de tout ça, débauche, idolâtrie, perversion, homosexualité, vol, avarice, ivrognerie. Gloire à Dieu, car oui, Dieu peut faire sortir de tout cela. Rien de tout cela n'est une fatalité. Le péché n'est pas une fatalité. Mais certains d'entre eux voulaient y retourner, croyant à tort que cela ne leur ferait pas de mal, croyant que cela ne ferait pas de mal aux autres, et croyant que cela n'attristerait pas le Seigneur. Faire marche arrière sur le chemin de la sanctification, quel dommage et quelle tristesse. Mais c'est bel et bien avancer, aligner notre volonté sur celle de Dieu qui fera notre bonheur. C'est bien de devenir dépendant de Dieu qui nous rendra libres. Puissions-nous ne pas l'oublier, puissions-nous le réaliser de plus en plus, et puissions-nous nous y encourager les uns les autres, avec amour. En enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saint dans toute votre conduite, comme c'était rappelé tout à l'heure aussi. C'est la clé du vrai bonheur, sachons le vivre, sachons le dire avec douceur et amour autour de nous. Amen. Bon, il y a du boulot. Et je vous invite à quelques instants de silence avant de prier. Oui Seigneur, il y a du boulot, et tu as du boulot encore dans ma vie, pour m'aider à grandir, à me fortifier, à être sanctifié, toujours davantage à ton image. Parfois je me crois suffisamment arrivé pour donner des leçons aux autres, pour regarder les autres de haut, surtout ceux qui sont dans les péchés graves. Donne-moi toujours de me souvenir de la grâce que j'ai moi-même obtenue, et de voir les autres avec aussi ce regard d'amour que toi tu as. Donne-moi sagesse et discernement sur la façon de savoir et de pouvoir aborder les autres. Que ma vie, ce que je fais, en tout cas, soit un témoignage de ton amour et de ton accueil. Et si tu veux aussi que j'ouvre la bouche, alors donne-moi des paroles de sagesse et d'amour, tout en étant des paroles de vérité. Je te prie, Seigneur, pour notre monde. Notre monde qui est égaré, qui est aveuglé, où le mensonge règne, où on appelle mal bien et bien mal. Donne-nous d'être des lumières, Seigneur, non pas pour juger, non pas pour condamner, mais vraiment pour apporter ta lumière. Et je te prie pour les personnes, effectivement, qui sont dans l'homosexualité. Je ne suis pas très à l'aise, moi, quand j'en croise, Seigneur, mais je sais que tu les aimes. Et tu me demandes de leur transmettre cet amour. Aussi, je te prie, Seigneur, d'en attirer à toi, pour transformer encore des vies, pour encore sauver, pour encore laver, pour encore purifier, pour qu'il puisse devenir juste devant toi, par la grâce de ton sang. Merci parce que tu ne fais aucune considération de personne, et tu veux effectivement que tous parviennent à la connaissance de la vie éternelle. Merci Seigneur pour cet exemple. Oui, bénis les gens de notre entourage, les gens de nos familles, de nos amis, de nos collègues, les gens que nous croisons dans la rue. Aide-nous, ô Seigneur, à manifester que tu es la clé de leur bonheur. Ce n'est pas en faisant tout et n'importe quoi qu'on a le bonheur, mais c'est bien et bien en te découvrant. Merci pour ta parole, Seigneur. Aide-moi à la connaître, à la comprendre, à la vivre, même quand elle est parfois dure ou contraire à ce que dit la société. Aide-moi à la transmettre pour ta gloire, avec amour. Amen.